Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Sur un faux air de roman noir avec une mort étrange et l'enquête d'une femme rattrapée par un fait divers, le nouveau livre de mon invité aujourd'hui est aussi le portrait d'une ville, Le Havre. Face à l'océan, cette cité portuaire au nord de la France est un lieu particulier pour la narratrice qui y a vécu, grandi et qui y retourne des années après le temps d'une journée pour être entendue par la police. Une journée particulière où les souvenirs remontent à la surface, où les eaux maritimes, le vent, les odeurs, l'architecture particulière du Havre font écho à ses pensées et à son passé. Écho aussi à l'histoire et aux villes bombardées, hier et aujourd'hui. Écho également littéraire avec Virginia Woolf qui écrivait les vagues, les phares, les heures et qui avec Mrs. Dalloway retraçait la longue déambulation d'une femme dans Londres, se remémorant entre autres son ancien amour. Bonjour Maëlys de Kerangal.
Bonjour.
Votre nouveau roman, intitulé « Jour de ressac » aux éditions Verticales, s'ancre dans les pas de votre personnage qui, en allant au Havre, fait un double voyage, géographique et intérieur, une déambulation nimbée de mystère, de brume, avec presque aussi un parfum de danger. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce livre ? L'envie de se couler dans cette ville qui vous est chère ou l'envie d'une atmosphère particulière qui vous a fait penser au Havre ?
J'avais très envie de parler du Havre et j'avais très envie d'écrire différemment, c'est-à-dire d'être autrement présente dans un roman. Les romans précédents, je pense à « Naissance d'un pont » ou « Réparer les vivants » ou à « Un monde à portée de main », sont des romans où on accomplit des... Voilà, où les figures romanesques accomplissent des choses et où moi, j'explorais souvent un monde documentaire qui m'était inconnu, qui était très loin de moi et sur lequel j'avais assez peu de prise. C'est vrai que pour ce livre-là, je pars de moi, c'est-à-dire je pars de cette ville où j'ai vécu mon enfance et mon adolescence, et je pars aussi d'un jeu, d'un JE, hein, d'un jeu narratif, d'une narration à la première personne du singulier, ce qui est pour moi un peu une première, partir de moi et propulser finalement cette ville dans la fiction. Parce que pour moi, ce qui était important, c'était de réinvestir le roman comme forme littéraire, qui permet l'intimité, la liberté, la songerie et aussi la captation du monde d'aujourd'hui.
Parlons-en justement de ce genre romanesque et revenons au déclic. Un coup de téléphone. Elle, alors je dis elle parce qu'elle n'a pas de prénom, elle répond. Un policier lui apprend que le corps d'un homme a été retrouvé sur la plage du Havre et que c'est une affaire qui peut la concernée. Donc elle quitte Paris où elle vit avec son mari et sa fille de 20 ans. Elle prend le train pour le Havre et là les interrogations commencent. Qui était le mort ? Pourquoi a-t-elle un lien avec lui ? Qu'est-ce que vous permet ce début de récit, Maëlys de Kerangal, qui commence vraiment comme un polar ?
J'avais envie justement de faire effraction, c'est-à-dire de créer un démarrage où on rentre en effraction dans le récit avec quelque chose qui tienne justement du fait divers, un démarrage un peu polar, quoi qu'on ait immédiatement dans un rythme qui est plus lent que le polar et m'avancer finalement vers cette ville qui pour moi colle beaucoup à l'idée que je me fais en tout cas du roman noir. C'est-à-dire que le roman noir... Il y a la présence parfois inquiétante de la mort, il y a une forme d'opacité, mais ça tient à une atmosphère, un roman noir. Et je trouve que Le Havre est lesté d'une atmosphère qui colle, qui possiblement peut évoquer ce genre du roman noir. Et j'avais envie aussi de démarrer par quelque chose que je m'étais jamais essayé à ce type d'écriture, en signalant finalement les codes du genre, c'est-à-dire un mort, l'appel d'un policier, une audition au commissariat, et on rentre comme ça. Et puis, très vite, finalement, cette piste policière est un peu mise en échec dans la mesure où la narratrice ne reconnaît pas le mort sur la photo, elle ne comprend pas en quoi elle est liée à cette personne. et elle sort du commissariat extrêmement troublée. Et au lieu de repartir vers Paris où l'attendent son mari et sa fille, dont c'est l'anniversaire, en fait, elle va différer toute la journée son retour au Havre avec cette question. Qui est cet homme? Est-ce que j'ai pu le connaître? Où est-ce que je l'ai vu? Mais qui est-ce? Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un que je connais? Enfin, vous voyez, avec cette espèce de question lancinante qui va l'habiter et avec laquelle elle va déambuler dans le Havre pendant ce fameux jour.
Alors, c'est vrai que c'est un ton, un tempo qui est un peu nouveau dans votre écriture, Maëlys de Kerengal. Est-ce que pour autant, vous aimez les romans noirs ou le cinéma d'espionnage? Parce que ici aussi, il est question de cinéma d'espionnage.
Oui, j'ai un goût pour le roman noir et j'aime assez finalement dans la veine de l'espionnage évidemment les questions de double identité, de couverture, la façon dont on peut se masquer, changer de visage, et le Havre se prête à ça, en tout cas l'expérience que j'en ai, parce que moi, j'ai habité au Havre jusqu'à la fin, au milieu des années 80. Et c'était la guerre froide. Il y avait les bateaux soviétiques qui rentraient dans le port. Et vous voyez, c'était une ambiance spéciale. Et voilà, je trouvais que tout ça faisait écho.
Et c'est vrai que Jour de Ressac, c'est une cartographie littéraire, émotionnelle, avec cette femme que l'on suit dans les rues. Parce qu'effectivement, comme elle ne comprend toujours pas le lien qu'elle peut avoir avec ce cadavre, que la seule indication qu'on lui donne, c'est un ticket de cinéma. Donc, en fait, elle va sur les lieux où peut-être cet homme a passé ses dernières heures, donc ce cinéma, mais elle va aussi sur la plage où son corps a été retrouvé.
Absolument.
Et donc, elle rencontre des gens et elle fait une sorte d'enquête à son corps défendant, mais des personnes qui vont peut-être l'aiguiller. Mais finalement, elle enquête ou elle fait une enquête sur elle, Maëlys de Kerengal?
Je pense que les deux sont totalement tressés. Elle a évidemment envie de savoir ce qu'elle fout là, pourquoi est-ce qu'elle est là, en quoi cette histoire la concerne. Et moi, j'avais envie de tresser vraiment ensemble une enquête qui soit vraiment, pas une enquête policière, parce qu'elle n'est pas policière, mais vraiment une enquête qui se base sur des indices, des traces, des recoupements, des témoignages, puisqu'elle va essayer de parler à des gens, en tout cas de les faire parler. Et puis d'y insérer, d'y inclure la façon de revisiter aussi son passé, des scènes importantes qu'elle a vécues dans cette ville, un amour de jeunesse, en fait, qui a été, on dirait aujourd'hui, un ghosting, c'est-à-dire qu'elle a aimé un garçon qui a disparu un jour sans plus jamais réapparaître. Il y a une enquête intime qui se tisse dans une enquête qui est plus, j'allais dire, extime, en tout cas plus en dehors d'elle, et qui, elle, se nourrit des lieux, se nourrit des personnes. Et en fait, ça me permettait aussi, je pense, qu'on ne reste pas complètement sur elle, mais que finalement, le caractère portuaire de cette ville, finalement, reprenne le dessus. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est cette capacité à être comme un capteur du contemporain. C'est-à-dire que le port du Havre, c'est cette espèce de grande bouche qui est tendue vers l'horizon, l'horizon de la Manche, l'horizon américain, l'horizon océanique aussi. Et puis, d'un autre côté, il y a cette espèce d'horizon fluvial qui remonte vers Paris. Mais vous voyez, il y a cette position, ce site assez exceptionnel qui fait que tout ce qui trafique dans un port peut passer par le Havre. Des réfugiés, de la drogue et des récits. Et en nouant ces deux enquêtes, j'espérais à la fois qu'il y ait la méditation, enfin l'enquête de la narratrice, la manière dont elle revisite un petit peu ces événements de son passé, et puis la manière dont cela fait écho à l'époque et au monde que l'on traverse, vraiment le monde contemporain.
Et cette dualité renvoie évidemment à la question du dédoublement en filigrane. Ouais. L'adulte qu'elle est, l'adolescente qu'elle a été, l'amoureuse dépitée, la femme mariée, une personne anonyme ou la clé d'un crime, autant de jeux de miroir incarnés aussi par son métier.
Absolument.
Puisqu'elle est doubleuse, en d'autres termes, actrice de post-synchronisation. Alors c'est un métier passionnant, très intéressant. On pose sa voix sur d'autres visages. Et je me disais, Maëlys de Kerengal, finalement, c'est un peu comme être écrivain, on pose ses mots sur d'autres personnes.
Oui, alors c'est quelque chose que j'avais pas complètement anticipé. La question de la voix humaine me passionne depuis plusieurs années, depuis assez longtemps maintenant. Mais là, et j'avais déjà écrit sur des scènes de captation, des scènes d'enregistrement, des scènes de radio, puisque bon, la radio est un médium qui m'est très familier, qui m'est très cher aussi depuis très longtemps, et sur différents plan, enfin, c'est biographiquement quelque chose qui me touche beaucoup. Et là, si vous voulez, je trouvais que la position de la romancière et la position de la doubleuse, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un écho extrêmement fort entre ces deux positions. C'est-à-dire de la même manière que, en tant que doubleuse, le personnage dit « c'est pas l'accolement mécanique, c'est l'animation intérieure d'un être, il faut... » Par ailleurs, elle est un peu en crise. On sent qu'elle n'arrive pas bien à poser sa voix. Elle rate un peu tous ses enregistrements. Donc, quand elle débarque au Havre, c'est une femme qui est assez vulnérable de ce point de vue-là. Et je me disais, au fond, il y a évidemment un lien avec cette position qui est la mienne, dans l'idée d'aller inclure ses voix, ses gestes, cette animation intérieure d'une figure romanesque, en fait, et qui est le travail du romancier, là, pour le coup. C'est-à-dire, ces personnages fictionnels, comment on les incarne, quelle est leur voix, comment on leur trouve une hauteur de ton, une tessiture, une vibration, un tempo. Et ça, je trouve que c'est intéressant, mais je m'en suis rendu compte au cours du livre, en fait. Vous voyez, j'avais pas complètement anticipé cet aspect-là de justement que je pouvais être, moi, le double de cette doubleuse, en fait.
Et c'est tellement juste. On va continuer de parler avec vous, Malice de Kerangal, de ce roman Jour de Ressac, dans quelques instants. Pour l'heure, je vous propose une pause musicale. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute maintenant qui ferait vraiment écho à ce que vit votre narratrice qui marche un peu tambour battant sous la pluie et dans les rues du Havre?
Mais je pensais on pouvait faire un signe au groupe Blondie et à Debbie Harry. On aurait pu écouter un morceau de Parallel Lines ou Call Me, hein, de l'album suivant. Et je trouve que c'est ce son à la fois, je pense, assez féminin, extrêmement punk, extrêmement binaire, assez rock. Et pour moi, c'est aussi un des sons du Havre. Vous voyez, au Havre, il y a eu une scène punk rock assez intense. C'est aussi une ville rock, on peut dire. Et je trouve ça pas mal qu'on puisse écouter ce son-là en lien avec ce livre.
Alors, on écoute Blondie, Debbie Harry, et si vous permettez, je choisis Call Me.
Super.
Come above your
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Maïlys de Kerangal, qui publie son nouveau roman aux éditions Verticales, on l'a dit, sous le titre « Jour de ressac ». Ressac comme le retour des vagues vers le large, mais aussi comme le retour des émotions et des souvenirs refoulés, ce qui est le cas pour la narratrice qui, revenant au Havre le temps d'une journée, est submergée par le lieu et son passé. Peut-être que pour mieux comprendre ces sensations, on pourrait entendre avec vous un extrait du roman dans votre voix, si vous voulez bien, Maïlys de Kerangal. Nous sommes plutôt au début du roman, page 28, et là, vous nous racontez, vous nous écrivez le Havre.
Le Havre avait encore des poussées de croissance adolescente. Mais la ville dont je suis l'enfant demeurait indifférente à tout ça. Elle ignorait ses manipulations et se foutait bien de ses manigances. Elle se tenait sous la surface visible des esplanades paysagées, au revers des pôles de fonctionnalité et des grèves urbaines, derrière les enseignes de la fast fashion et des boulangeries industrielles, en deçà des réhabilitations patrimoniales et des équipements flambant neufs. Elle résistait à son propre urbanisme. Elle vivait ailleurs, sous les nuages et dans le vent. Seules m'intéressaient les données logées dans ma carte mémoire, les lignes enfouies et les vieux aperçus, les très anciens repères, le ciel vaguement plus clair à l'ouest, les couloirs du vent, la forme des fumées. Aussi, ce qui a traversé mon cœur de mortel, fugace mais tranchant, alors que j'évitais de me casser la gueule sur le trottoir que vitrifiaient les feuilles mortes, avait-il peu à voir avec le sentiment de perte, la poisse mélancolique, le chagrin éprouvé devant ce qui s'efface, s'altère, devient méconnaissable, mais relevait d'une autre émotion, tout aussi poignante, celle qu'on éprouve au contraire devant ce qui, dans le temps, persévère et se ressemble, devant ce qui avait survécu et que je pouvais reconnaître, si longtemps que je ne suis pas revenue au Havre.
Merci beaucoup. Voici donc le retour au Havre de cette femme qui va croiser des fantômes. Et on peut dire d'ailleurs que le Havre a été une ville fantôme, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin, en septembre 1944, il y a donc eu 80 ans exactement, les Alliés qui l'ont bombardée pendant plusieurs jours d'affilée pour faire sortir les Allemands de leur cage, faisant de très nombreuses victimes civiles, de très nombreux dégâts sur l'architecture. Et c'est ce que découvre votre personnage adolescente à l'occasion d'un exposé et d'une rencontre avec une survivante. Pourquoi est-ce que vous vouliez revenir sur cet événement, Maïlys de Kerangal ?
Parce que je pense que c'est une des choses justement qui a marqué mon adolescence. C'est-à-dire, je pense que c'est pas du tout anodin de grandir dans une ville dont on sait qu'il y en a une autre qui a disparu avant. Il y en a une autre qui est effectivement, comme vous disiez, une ville fantôme sur laquelle on n'a pas de prise. Et surtout, la reconstruction de la ville, c'est pour ça que c'était important d'en parler, a créé une seule couche, en fait, je veux dire, une seule couche d'architecture, une seule couche géologique, on peut dire, qui est la reconstruction dans le style architectural d'Auguste Perret, qui a été classé en 2005 par l'UNESCO. Mais voyez, donc ces immeubles, ces rues, ces artères qui se coupent à angle droit, ces immeubles de trois étages, l'usage du béton, d'un béton qui est ouvragé. Mais voyez, ça donne une physionomie à la ville qui est si homogène qu'on a l'impression de vivre aussi dans un décor. Et ça, pour moi, c'est la physionomie de cette ville, ça a été très important. Et en plus, il y a eu aussi ce que je raconte aussi dans le livre, le sentiment de relégation, le sentiment qu'on vivait loin, d'abord au bout des rails, et puis surtout dans une ville que tout le monde trouvait moche, on nous plaignait de vivre là, mais comment est-ce que vous pouvez vivre là ? Parce que cette ville avait cette physionomie vraiment à la fois grise, mais un gris gris qui n'est évidemment pas du tout gris dans mon œil, hein, qui est au contraire une palette de couleurs très très belle. Et cette, voilà, et cet usage de béton, voilà, qui faisait qu'on avait le sentiment d'être un peu relégué. Il y avait une espèce de haine de soi. Les Havrais d'ailleurs n'avaient pas retrouvé la ville qu'ils avaient perdue. Et je pense que effectivement, l'architecture de Perret a dû être compliquée à accepter, à s'approprier. Et je trouve tout ça est intéressant dans la manière dont d'abord une enfant, puis une adolescente se représente justement la question du passé, par exemple, la question de la fiction. Et pour moi, c'était très important de revenir sur la question des bombardements.
Et je retrouve là votre goût pour l'archéologie, Maëlys de Kerangal, aller fouiller, aller creuser, aller saisir les traces du passé. Et puis aussi cette question de destruction et de construction qui vous intéresse depuis longtemps, au sens propre avec votre roman Naissance d'un pont, et puis aussi au sens figuré, parce que dans Réparer les vivants, vous racontiez la transplantation d'organes. Donc c'était le passage de la mort à la vie. C'est la question de la renaissance, tout ça, qui rassemble ces romans et ces questions qui vous traversent.
Alors là, j'ai essayé d'interroger justement cet espace, ce lieu Havrais. Et pour moi, ce qui était important, vous voyez, c'est une histoire qui démarre par une question d'identification. Est-ce que vous pouvez nous aider à identifier ce cadavre qu'on a retrouvé au bas de la digue Nord ? Et ça devient, au fil du livre, la question de la reconnaissance, qui est assez différente de la question de l'identification. La reconnaissance, voilà, c'est l'idée aussi de reconnaître la part d'humanité en l'autre, vous voyez. Et je trouvais que, de fait, Le Havre, pour moi, ce qui a aussi rendu le livre possible, c'est le moment où je me suis dit, mais au fond, Le Havre a été ce cadavre par terre, défiguré, méconnaissable. Il faut voir les photos qui ont été prises, finalement, après les bombardements qui ont eu lieu entre le 5 et le 10 septembre 1944. Les photos sont absolument stupéfiantes. La ville est réellement rasée. Il n'y a plus aucun bâtiment qui est debout. De cet effondrement, on n'a jamais... Vous voyez, c'est une ville qui ne s'est jamais redressée comme elle était. Elle s'est redressée, mais autrement. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Elle est devenue, elle a pris un autre visage, elle s'est redressée, elle est devenue autre chose. Et dans cette histoire de ressac, il y a ça. Il y a l'idée que les choses reviennent, mais elles reviennent déplacées, elles reviennent un peu décalées, elles reviennent jamais pareilles, ce n'est jamais les mêmes. Et d'ailleurs, dans le livre, les principaux personnages ou les principaux motifs sont tous revisités deux fois. Le commissaire, il y a deux rencontres avec lui. L'évocation de ce premier amour se passe en deux temps. Vous voyez, il y a cette histoire de deux, voire trois temps. Donc, il y a du ressac et à chaque fois, ça ne revient pas de la même manière. C'est décalé.
C'est le principe de la marée.
C'est le principe de la marée. Oui, voilà. Et
l'eau ne revient jamais exactement au même
pareil.
Endroit.
Voilà. Ouais. Ça ne revient pas au même endroit.
Donc, reconnaissance, renaissance. Les bombardements du Havre qui font aussi écho aux bombardements de Berlin en 1945, comme dans le livre « Automne allemand » de Stieg Dagerman, que lit votre personnage. Et puis, comme les bombardements aujourd'hui en Ukraine. Mmh. Et ici, au fil de ces déambulations, votre narratrice va rencontrer deux migrantes ukrainiennes qui ont traversé l'Europe, à leurs risques et périls d'ailleurs, jusqu'au Havre, et qui espèrent, en traversant la Manche...
Elles attendent un visa, oui.
...aller jusqu'à Londres. Mmh. À quel moment cette question brûlante de l'actualité s'est-elle invitée dans votre narration, Maëlys de Kerangal ?
En fait, c'est ça qui est, je pense, assez étonnant, stimulant, intrigant dans le travail d'écriture, c'est qu'il accueille aussi, de fatalement, et pour le mieux d'ailleurs, le monde contemporain. C'est-à-dire, moi, je souhaitais écrire un livre qui soit évidemment pas du tout mes souvenirs d'enfants et d'adolescentes havraises, mais plutôt, comme je le disais tout à l'heure, de tresser deux pistes. Et je trouve que écrivant ces bombardements sur ces bombardements du Havre, évidemment que tout de suite, je me suis dit, mais au fond, ça fait complètement écho à la période que l'on vit. Le bombardement d'ailleurs de Kharkiv, à l'époque où j'écrivais, c'était beaucoup cette ville Kharkiv qui était complètement bombardée, où par ailleurs j'avais des liens. Et puis voilà, et ça s'est poursuivi avec les bombardements à Gaza. Et on voit bien que voilà, l'époque, elle parle aussi. Et je trouve que c'est magnifique ça, quand dans la littérature, on sent qu'on touche un point de contact entre une intimité qui peut être celle de l'auteur, hein, une intériorité. Et en même temps que cette intimité-là, elle capte aussi beaucoup plus largement. Elle élargit son prisme, elle vient attraper finalement ce qui fait la vie de tous.
Oui, parce que de toute façon, de façon plus générale, ça renvoie aussi aux flux migratoires qui sont de plus en plus nombreux. Ces déplacements de populations chassées de chez eux par la guerre, mais aussi par la sécheresse, par la misère, et qui, en trop grand nombre, meurent d'ailleurs souvent naufragés, noyés, et sans qu'on puisse les identifier. Ça nous renvoie beaucoup à votre roman, Jour de Ressac, cet homme retrouvé sur la plage dont on n'arrive pas à savoir qui il est. Il y a une forme de perte d'humanité.
Absolument, et d'ailleurs, cette figure du cadavre échoué sur les galets, pour moi, c'est une image contemporaine très forte. C'est-à-dire, c'est comme ce qui est vraiment contemporain, c'est aussi ce qui fait le lien entre l'archaïque et la modernité. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de passer par l'actualité. On voit bien que c'est à la fois Ulysse sur le rivage, et puis ce sont les réfugiés qui ont embarqué sur des canots, sur des bateaux, qui ont fait naufrage et que l'on retrouve morts sur les rivages. C'est aussi, il y a tout un travail d'identification ensuite des noyés, c'est-à-dire qu'il faut quand même mettre un nom sur ces visages aussi pour porter leur mémoire, pour porter finalement leur présence. Et c'est quelque chose pour moi qui est très important, en fait, qui aussi de les resituer, de les replacer, de leur redonner une place parmi les hommes.
La femme qui présente les deux jeunes Ukrainiennes à votre narratrice s'appelle Virginia. C'est la sœur de Vanessa, une amie d'enfance de votre personnage. Virginia, Vanessa, comme les deux sœurs Woolf. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de vous lire à la lumière de Virginia Woolf et de Mrs. Dalloway, qui le temps d'une journée arpente Londres, comme vous le Havre, qui mêle présent et passé, quotidien et souvenir, côtoie un blessé de guerre aussi et qui se remémore son amour de jeunesse. Est-ce que ce sont des coïncidences, Maëlys de Kerangal, où vous vous mettez aussi un peu dans les pas de l'écrivaine britannique?
C'est plus qu'une coïncidence, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire un signe à cet auteur. À un moment, la narratrice dit « j'avais envie, moi aussi, de faire la promenade au phare ». Et c'est vrai que ce roman 24 heures de Mrs. Dalloway, qui est un roman majeur et, dans ma vie de lectrice, enfin, c'est un roman qui est vraiment énormément compté, qui est comme un espèce de pivot dans ma vie de lectrice. Voilà, j'avais envie de lui faire signe. En plus, Virginia Woolf a écrit « Les vagues », elle a écrit La promenade au phare, et je lui faisais signe un petit peu par ces trois livres-là, étant donné que la narratrice de Jour de Ressac, à un moment, est submergée par une vague qui justement lui rafraîchit la mémoire, et la question des vagues, justement, de leur cycle, de leur éternel retour, et puis de la façon dont elle déplace, donc elle crée cette espèce de ressac qui décape et révèle, qui vient recouvrir et qui vient raviver. En fait, pour moi, c'était important. Pourtant, je trouve qu'elle est un peu l'auteur à l'ombre duquel j'ai voulu écrire ce livre. Enfin, je ne sais pas trop comment le dire, mais j'étais un peu dans ce sillage. Elle n'était jamais loin. Voilà, c'est ça, comment je pourrais le dire comme ça. C'est un auteur que j'aime beaucoup et j'avais envie de lui faire signe parce que pour moi, c'est très important qu'un roman exalte aussi l'idée que les livres ne viennent pas de nulle part, mais viennent évidemment d'autres livres. Enfin, ils s'écrivent au sein de vies de lecteurs, dans le ressac des autres livres.
C'est ça la beauté du ressac, en effet, celui qui nous éloigne et qui nous ramène avec des, à la fois les mêmes émotions mais de nouvelles émotions, les mêmes personnes mais de nouvelles personnes, les mêmes histoires mais d'autres histoires. Merci infiniment Maëlys de Kerangal d'être venue nous parler de ce très très beau roman « Jour de ressac » qui vient de paraître aux éditions Verticales.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.